à faire en rentrant à Paris. Me faire faire des clés. Faire arranger smoking et acheter linge du soir. Voir Dr Borel pour psychanalyse.
Édouard Glissant.
C'est pas lui qui a trouvé le titre L'Afrique fantôme, je crois.
C'est Malraux.
C'est Malraux, oui. Mais qu'il ait pris tout de suite, je trouve ça. Parce que c'est lui qui est le fantôme. C'est pas l'Afrique.
C'est ce il que vous dit dites, lui-même. C'est ce que vous dites, justement.
Oui, oui.
Vous dites l'Iris, il fait fantôme.
Oui, oui. À mon avis. Quand on lit l'Afrique fantôme, l'intérêt, c'est de voir l'Iris passer dans tout ça comme un fantôme. Non pas comme un magistère, non pas comme un grand théoricien des idées générales, non pas comme mais comme le fantôme qu'il est pour lui-même à ce moment-là. Et un fantôme qui ne récuse pas sa position de fantôme. L'Iris a toujours été d'une grande lucidité, n'est-ce pas? Et j'ai remarqué d'ailleurs qu'à cette époque, l'Afrique avait la vertu de révéler les gens à eux-mêmes, n'est-ce pas? L'intérêt de l'Iris, c'est que il n'a pas fait de cette révélation un phénomène exceptionnel. Il en est resté comme cela à la relation. Et je crois que d'un point de vue qui m'intéresse en tout cas dans la littérature moderne, c'est-à-dire le point de vue de la relation, le point de vue du contact des cultures, le point de vue de ce que j'appelle la colonisation, l'Iris est le personnage fondamental pour moi dans l'approche de cette notion-là.
Vous avez réfléchi il y a quelques années sur le titre même du livre L'Afrique fantôme, qui selon vous est la marque de la déception, vous disiez alors, d'un occidental mal dans sa peau, ne trouvant pas dans son long périple une réponse à son malaise.
Bon, l'expérience de l'Iris a été une expérience très honnête. Rien ne permet de penser qu'il ne l'a pas éprouvé. Cet enthousiasme qui peut conduire au départ, qu'il n'était pas heureux de partir aussi. Le problème avec le départ, c'est que lorsqu'on est un peu loin, on n'est pas nécessairement trop loin de soi. Il arrive qu'on soit encore plus près de soi ou de ses obsessions lorsqu'on se trouve un peu plus éloigné dans l'espace. Et on n'est pas toujours sûr non plus de trouver chez les autres une distraction à ses propres problèmes ou à sa propre mélancolie ou à son humeur en général. Je pense qu'une des découvertes de l'Iris, ça a été en effet d'être encore davantage sensible en lui-même, à lui-même, alors qu'il faisait l'expérience des autres. D'une certaine manière, en ce sens, l'Afrique était un peu fantomatique. Je crois que si on va un petit peu plus loin, et c'est pour cela que la relecture de l'Afrique fantôme est intéressante, il y a peut-être beaucoup d'honnêteté à avoir fait cette expérience. Et peut-être est-elle l'étape préliminaire à un véritable rapport avec autrui. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le fétichiser, il ne faut pas lui prêter des vertus qu'il n'a pas, parce qu'après tout, lui, il est chez lui, et il reçoit un visiteur. Mais il n'est pas cette espèce d'incarnation du lointain et de la différence vers quoi l'occidental un peu fatigué peut espérer se diriger pour trouver une distraction ou des formes d'oubli. Alors l'Afrique, elle est fantôme en ce sens que elle était fantôme dès le départ, elle était songe au départ et elle est souvenir après. Et entre les deux, ce qui s'est passé peut-être, c'est aussi l'ignorance provisoire d'une Afrique très réelle dont Léris a su parler aussi, mais qui était l'Afrique coloniale, l'Afrique dans l'histoire.
Et non, c'est la préface de 1950 que vous évoquez.
Voilà.
C'est ça, voilà. Oui, ce reproche d'avoir été sensible dans les années 30 à l'Afrique. Avec éviter des questions sociales ou politiques.
Voilà, voilà. Donc il a fait lui-même tout ce parcours et de pouvoir écrire ce qu'il a écrit en 50 n'est pas, à mon avis, un retour sur soi qui serait quelque chose comme un simple remords ou un rectificatif. C'est plutôt, je pense, une espèce d'approfondissement qui aurait sans doute été plus difficile si Léris n'avait pas été parfaitement lui-même dans l'Afrique fantôme. Et les va-et-vient du rapport à l'Afrique sont intéressants, parce que, Afrique mise à part, vous pouvez entendre ces va-et-vient dans la bouche d'autres, n'est-ce pas, qui, par rapport à leurs illusions idéologiques, peuvent ensuite parler de la déception ou des trahisons de la gauche ou des trahisons de... L'Afrique trahit un peu, l'Afrique a trahi un peu aux yeux de Léris, etc. Mais elle a trahi quoi? Elle trahit nos espérances projetées sur d'autres. Alors, l'Afrique est plurielle, certes, mais pour qui a travaillé en Afrique et pour qui a travaillé jeune, l'histoire du continent est un petit peu indissociable d'un parcours personnel, n'est-ce pas ? Moi, je me souviens qu'en effet, dans ces années 60, où je me trouvais en Côte d'Ivoire, c'était une époque où nous pensions pouvoir faire quelque chose. Il y avait un espoir de voir la situation des différents pays africains s'améliorer. Il y avait les grands penseurs, les hommes politiques importants sortis de l'époque coloniale avaient une présence encore sensible. La conjoncture économique était bonne. Même si nous ne partagions pas tous les spécialistes du développement, du décollage, étaient qui calculaient au millimètre ce que serait la progression de l'Afrique dans les années à venir, nous pouvions avoir le sentiment que se formait une élite intellectuelle et peut-être plus tard politique qui aurait conscience de tout ce dont nous avions conscience de ne pas nous être assez occupés, ou dont nous pouvions estimer que la puissance coloniale ne s'était pas occupée. Et puis, il est paradoxal de voir qu'aujourd'hui, la situation en Afrique, la situation économique globale, je crois qu'on pourrait dire qu'elle est sensiblement moins bonne qu'à des périodes passées, y compris peut-être la période coloniale, mais disons en tout cas la période de l'immédiate indépendance. Et cela, qu'on le veuille ou non, on doit l'imputer aux Africains eux-mêmes, parce que je ne vois pas pourquoi on les mettrait à l'abri de ce reproche, et à ceux qui prétendaient pouvoir contribuer à aider au développement.
14 novembre. Nouvelle pollution nocturne. Rêvais par ailleurs que je me réconciliais avec André Breton. Au diable la psychanalyse, je ne chercherai pas à savoir s'il a pu exister momentanément un rapport entre ces deux événements. J'aimerais mieux que Freud me dise de quel inceste solaire ou autre sont issus les masques, eux qu'une femme a découverts, dont une femme à laquelle on voue un véritable culte, la Yas Ilouine, est actuellement la sœur, et qui sont interdits à toutes les femmes en général comme une chose particulièrement fumante et dangereuse. Les raptes continuent en dehors de cela, et les informations. Sanctuaires et trous où l'on jette les vieux masques sont systématiquement explorés. de Bandiagara entre le chef de canton et tous les gens mobilisés pour le 11 novembre. Encore n'était-ce qu'une bénigne mobilisation, et ne s'agissait-il que d'une simple parade. Néanmoins, le nombre des chevaux et des hommes est grand. Et l'administration dira encore que nous en prenons trop à notre aise avec le pays. Le déplacement à Bandiagara a vidé le cercle d'une grande partie de sa population mâle, ceci à la fin des récoltes, au moment des engrangements. Mauvaise humeur contre la France, indifférence à l'égard de l'Afrique, mauvaise humeur contre ce journal, verbeux alors qu'il faudrait des coups de trique.
Have you seen the skinny little boy that chases the white ghost at night?
Have you seen the little boy?
Face puffed up, tracks in his arm and his mind blown. His mom is somewhere drinking and talking about survival. Pops in jail or downtown in the Y. The little boy chases white ghosts with his friend and they get high.
And they get high.
Like cloud nine where everything is fine.
No responsibility.
Have you seen two little boys running past you with a lady's purse? They stole the black one's purse the other day. Yesterday, today, tomorrow, face puffed up, tracks in their arm, eyes popping out of their skulls, and their minds blown, and they get high, talking about tripping, talking about flying, talking about getting high.
On ne peut pas séparer le poète de l'ethnographe Schelleris, à mon avis.
C'est une question qui me préoccupe, justement, parce que vous dites, j'ai là une citation de Georges Balandier, une de vous, et vous dites presque mot pour mot la même chose. Mm. Balandier note, dans le même temps où Léris accomplit son cheminement d'ethnographe appliqué, il se fait autrement écrivain, il se transforme par l'écriture, en tenant librement le journal de l'expédition Dakar-Djibouti. Il noue l'œuvre ethnographique et l'œuvre autobiographique d'un même mouvement. Et vous-même, Édouard Glissant, vous dites la méthode, si je puis dire, de Léris, ethnographe ou écrivain, est la même, répondant, selon vous, à la même impitoyable exigence de vrai, de véracité. Et vous ajoutez que l'attention que Léris porte au monde, il la contraint à la toute-puissance de cette véracité. Mm-hmm. Vous êtes d'accord donc avec Balandier?
Oui.
Oui, non.
Non, je suis d'accord, mais je crois qu'il dit que Balandier dit que en même temps que Léris est ethnographe, il développe ça. Mais ce que je dis, c'est que c'est pas en même temps. C'est pour la même raison, pour le même, etc. Je veux dire, il y a une exigence de l'ethnographe chez Léris qui est aussi l'exigence du poète, qui est l'exigence de ne pas s'en remettre à des idées généralisantes, à des absolus de vérité, et de vivre la chair du monde, si on peut dire, et de la rapporter en essayant de ne pas la dénaturer, en essayant de ne pas, ni dans un sens ni dans l'autre, ni dans le sens de l'exaltation, ni dans le sens du dénigrement. Et je crois qu'il a été assez héroïque sur Léris, sur cela, parce qu'il a toujours essayé de maintenir cette position qui est difficile. Pour dire la chose d'une manière, je sais pas moi, un peu, il aurait pu être, comme beaucoup d'intellectuels à l'époque, un membre du Parti communiste sans être stalinien. Voilà ce que je veux dire. Il aurait pu. Parce que c'est cette exigence qu'il avait en lui qui l'en aurait empêché. Parce que son propos fondamental, c'est rendre compte du réel sans en être la victime naïve, mais tout en y nouant des combats qui lui paraissaient essentiels. N'est-ce pas? Des combats. Bon, bien sûr, c'est des combats d'idées, n'est-ce pas? C'est la défense des peuples colonisés, c'est la défense. Pour lui, c'est pour ça que je dis qu'il aurait pu être communiste sans être stalinien. Pour lui, ces combats-là n'étaient pas une déformation du réel, n'était pas une valorisation absolue du réel, n'était pas, il ne dit pas, par exemple, l'avenir, comme Sartre, l'avenir c'est le prolétariat, ou des choses de ce genre, n'est-ce pas? La vérité absolue qui est en marche, etc. Il ne dit jamais ça. Il dit, bon, il faut défendre les gens. Concrètement, là où ils sont opprimés, là où ils sont, etc. Mais ils n'en tirent pas de vérité générale. Je me souviens que Sartre, dans son texte Orphée noir, disait que les Noirs, c'était l'avenir du prolétariat. C'est toutes choses qui paraissent tellement désuètes aujourd'hui, n'est-ce pas, hein, qui paraissent un peu farfelues. Et Léris ne va jamais là. Bon, il ne s'est jamais trompé. Il ne s'est pas trompé. Enfin, je veux dire... Il n'a pas dit des choses qu'on pourrait lire aujourd'hui en disant « Oh là là, ça, c'était un peu daté, ça, c'est, ça, c'est... » Comme on peut lire dans des textes d'autres grands écrivains de l'époque, n'est-ce pas ?
Peut-être sur Cuba, quand même.
Hein ?
Sur Cuba.
Oui, mais... Alors, oui, je fais une petite nuance, oui. Peut-être qu'il a un peu projeté le merveilleux dans le réel et dans la révolution cubaine. C'était difficile de ne pas le faire.
D'accord.
À l'époque, il y avait le romantisme des Barbados, il y avait la fête... cubaine, et il y avait tout cela. Bon, et peut-être, mais je trouve qu'il n'en a pas fait autant que les autres, en tout cas. Hein? Léris est extraordinaire parce que je ne sais pas s'il a réagi autant que les autres. Il n'a pas dénoncé 20 ans après, avec une fureur implacable, le régime castriste. Bon, ça filait comme ça.
Michel Léris, pendant les semaines cubaines de Grenoble, 1969.
Ont une valeur révolutionnaire, je crois, toutes les œuvres qui tendent à ruiner les stéréotypes plus ou moins rassurants sur lesquels l'homme aliéné croit pouvoir se fonder. Elles peuvent ruiner ces stéréotypes de différentes manières, soit en bouleversant de fond en comble la vision que l'on a du monde, c'est ce que fait la peinture de Picasso, par exemple, soit en donnant une conscience plus aiguë et plus brûlante de la condition humaine, c'est ce qu'a fait Kafka avec ses écrits, soit encore qu'elle découvre à l'homme et à la femme les ambiguïtés et les doubles fonds de leurs désirs. Ce qu'a fait quelqu'un qui était très proche, enfin, du surréalisme, Georges Bataille. Enfin, ce sont des exemples, et je pourrais en donner d'autres, d'œuvres qui ont vraiment révélé quelque chose, des choses dont la bourgeoisie, enfin, ne voulait pas entendre parler, enfin, la bourgeoisie qui voulait à tout prix se rassurer, avoir une vue, une vision du monde, enfin, bien peignée et bien jolie comme un jardin à la française, ou s'imaginer, enfin, que la condition humaine peut être bien gentille et bien confortable, et ignorer aussi tout ce à quoi les puissances du désir enfin, peuvent pousser. Je dirais aussi, je pense enfin très précisément aux théories judano-viennes, en m'inscrivant absolument en faux enfin, contre ces théories, que travailler sans directive donnée de l'extérieur, sans idée préconçue, ou presque sans idée préconçue, et comme s'il allait à la découverte, c'est sans doute pour l'artiste et l'écrivain le meilleur moyen d'échapper aux stéréotypes et de faire œuvre vraiment authentique et créatrice. Dans un pays ou l'impérialisme, sous la forme coloniale ou néocoloniale, a poussé à l'extrême l'aliénation des individus, en surimposant à la culture qui leur était propre une culture étrangère, dans ces pays où, plus que partout ailleurs, on est à la recherche de soi-même, la voie doit être ouverte aussi largement que possible à la libre expérimentation, qui est le seul moyen d'échapper à ce double danger dont on est menacé dans ces pays. L'un de ces dangers qui est d'imiter les modèles dernier cri, dirais-je, qui sont fournis par l'extérieur, ou bien, à l'inverse, de s'inspirer des modèles traditionnels avec l'intention délibérée d'aboutir à un art national. Je dirais enfin que un créateur, par définition, ne peut pas être un homme satisfait de la culture existante. Ce qu'il pousse à la recherche, c'est le besoin de rompre avec ce qui existe et de faire autre chose. De telle sorte qu'une société, même communiste, ne peut pas prendre des mesures visant à encourager cet artiste ou cet écrivain qui, par définition, doit être un insatisfait, qui par conséquent ne pourra jamais être 100% d'accord. Elle ne peut pas l'encourager, parce que tous les encouragements qu'elle pourrait lui donner, ça reviendrait tant soit peu à le domestiquer, c'est-à-dire à le neutraliser, à l'empêcher de travailler de façon vraiment créatrice. Tout ce qu'elle peut faire, mettons les choses au mieux, dans cette société communiste, tout ce qu'elle peut faire, c'est de garantir à l'écrivain et à l'artiste l'exercice de sa liberté absolue d'investigation. Mais cela, qu'elle le fasse sans aucune réticence, et en considérant que tous ses travaux, effectués en toute liberté, mais simplement, très simplement, s'ils sont effectués de façon honnête, de bonne foi et en toute liberté, eh bien, cela ne peut qu'aider la révolution dans sa marche vers la totale liberté.
Soit on a parlé de la culture révolutionnaire. Je trouve que cette culture-là, c'est toujours une culture qui sort d'un esprit individuel. C'est-à-dire, ce n'est pas socialiste. Je crois qu'un paysan ne peut pas comprendre un tableau de Picasso ni un roman de Kafka. On dit.
Ah, mais là, je vous arrête tout de suite. Oui, s'il ne comprend pas le tableau de Picasso, ben c'est parce que. C'est très simplement parce qu'il n'en a pas vu et qu'on ne lui a pas expliqué. C'est tout. Mais enfin, alors vous allez considérer ce paysan comme un pauvre idiot incapable de comprendre un tableau de Picasso. Mais pas du tout. Enfin, c'est là précisément, c'est là que l'éducation joue un rôle. S'il a eu assez d'opportunités, enfin, de voir des tableaux de Picasso, puis quelqu'un qui lui dit un petit peu de quoi il s'agit, et si également il a lu, ben bien sûr qu'il ne pourra pas lire tout de suite un livre de Kafka, mais qu'il ait lu d'autres choses, enfin qu'il achemine vers Kafka, mais il n'y a absolument aucune raison de penser qu'il n'y comprendra rien. Mais ça l'intéressera pas.
Bien sûr. Alors, dedans une révolution, il faut faire aussi une culture qui est révolutionnaire, ne parle pas de révolution. Cette culture-là que vous dites, c'est une culture qui veut faire de la propagande vers les autres pays qui ne sont pas socialistes, ou bien c'est une culture qui va vers des hommes comme des intellectuels qui peuvent comprendre ça, qui peuvent comprendre.
Mais j'ai jamais rien dit de tel.
Ce n'est pas une culture socialiste.
Excusez-moi, mais j'ai rien dit de tel. J'ai dit qu'il y avait nécessité pour la révolution d'avoir un certain art, une littérature de propagande. C'est entendu. Mais j'ai dit aussi qu'il fallait, je n'ai pas dit d'ailleurs un art et une littérature pour intellectuels, mais un art et une littérature parfaitement libre.
Oui, exactement, c'est une art libre, mais qui ne sort pas d'un esprit individuel.
Mais par définition individuelle.
Ce n'est pas socialiste, enfin. Quelle est la participation des masses?
Le socialisme, c'est fait avec des individus, ou c'est fait avec quoi?
Bien sûr, mais des individus qui parlent dans un monde qui ne peut pas être compris des masses. qui ne peut pas être rempli des ouvriers, des paysans.
Il faut un effort énorme.
Ce n'est pas socialiste.
Il faut un effort énorme pour se faire comprendre des masses. Et à mon avis, enfin, des socialistes qui ne font pas cet effort vers les masses, et pour non pas pour se mettre à leur portée, mais pour leur faire connaître enfin ce qui est bien, eh bien, ce sont des gens qui méprisent le peuple et qui font du travail contre-révolutionnaire.
Je crois que je vais finir, mais je reste ma opinion. Pour moi, une culture comme ça, c'est une culture qui parle de l'évolution, ça fait de la théorie évolutionnaire, mais ce n'est pas révolutionnaire.
Bon, libre à vous.